Frères et sœurs bien-aimés, la solennité qui nous voit réunis est bien grande, non seulement parce que nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, patronne et reine de France, depuis cette consécration du 10 février 1638. Nous vous confions, ô Notre-Dame, dans la gloire de votre Assomption, notre terre, son peuple, ses familles, ses malades, ses fidèles défunts, qu'avec le cortège des saints, vous puissiez prier pour nous, pour que nous soyons tous réunis là-haut, dans la patrie. Le 1er novembre 1950, certains étaient jeunes, sur la place Saint-Pierre, une foule immense d'évêques venus du monde entier, de cardinaux, une foule immense de fidèles attendaient que Sa Sainteté, le pape Pie XII, proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Cette fête qui nous voit réunis, fort ancienne, a été définie tardivement par l'Église. Et dans un monde qui a perdu le sens de la foi, certains pourraient dire de l'extérieur, ils croient en l'Assomption depuis que le pape, le 1er novembre 1950, l'a proclamé. Mais la règle de la foi est inverse. Le pape n'a proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie que parce que les fidèles tenaient cette foi depuis l'origine. Il manquait à l'Église les mots bien précis qui, ensuite de la conception immaculée de la Vierge Marie, dogme du 8 décembre 1854, pouvaient permettre d'affirmer qu'au terme de sa vie terrestre, la question de la mort ou de la dormition de Notre-Dame n'étant pas tranchée, au terme de sa vie terrestre, par un privilège provenant déjà de la mort et de la résurrection de son Fils, la bienheureuse Vierge Marie est montée à la gloire du ciel, non pas seulement en âme, mais déjà dotée de son corps, devenu dès lors qu'il entre dans la Cité Sainte glorieux. C'est une réalité bien différente avec celle de nos fidèles défunts. Nos fidèles défunts ont quitté cette terre. Leur âme paraît face à Dieu pour ce que l'on appelle leur jugement particulier. Et leur corps, nous le mettons respectueusement en terre. Nous souvenons que nous sommes poussière, que nous retournerons à la poussière, dans l'attente du retour du Christ, qui est la direction de toute notre foi, dans l'attente au dernier jour de la résurrection de la chair, ou à notre âme éternelle, bénéficiaire du salut opéré par le Seigneur, reçu dans le sacrement du baptême, nous pourrons alors ressusciter. Saint Paul, dans la seconde épître, a affirmé que le Christ est le premier-né de cette résurrection. Il nous dit dans l'Évangile, « Je suis la résurrection et la vie du monde à venir. » Le Christ est donc le premier des ressuscités et celle qui le suit étroitement dans le mystère de sa résurrection, c'est Notre-Dame. Dans la proclamation dogmatique, le Saint-Père rapporte un grand nombre de témoignages des pères de l'Église, mais aussi des saints, notamment un saint qui affirme « Lequel d'entre nous qui aurait la possibilité de mettre sa propre mère au ciel en chair et en os ne le ferait ? Qui parmi nous ne le ferait pas ?» Eh bien, le Seigneur Jésus a voulu ensuite, du terme de la vie terrestre de Notre-Dame, avoir sa mère à ses côtés, en chair et en os. Et au ciel, où nous irons la voir un jour, au ciel, là-haut, dans la patrie, elle nous y attend de pied ferme. Pour la bienheureuse Vierge Marie, nous parlons d'assomption. Pour le Christ, nous parlons d'ascension. La différence est une question de possibilité, une question de volonté. Le Seigneur est monté de lui-même, parce qu'il est Dieu, à la gloire du ciel. C'est son ascension glorieuse. Il est assis à la droite du Père, c'est la position du justicier et nous attendons que le Christ revienne ici-bas sur la terre en justicier pour le dernier jour. La Vierge Marie, qui est l'une des nôtres, même si elle est immaculée dans sa conception, qui est devenue la mère de Dieu en donnant naissance à l'humanité de notre Seigneur Jésus le Christ, la Sainte Vierge donc, elle, n'avait pas dans sa possibilité de monter elle-même au ciel. Elle est montée au ciel par assomption. C'est Dieu qui l'a attirée à elle pour qu'elle entre dans la clarté de la vie éternelle. La bienheureuse Vierge Marie accomplit deux réalités essentielles, celle du commencement et celle de la fin. Celle du commencement. Il y a un petit verset dans le livre de la Genèse que l'on appelle savamment dans l'Église le proto-évangile, le premier évangile, aussitôt après le péché d'Adam et Ève. Aussitôt après cette désobéissance du péché qui nous a valu d'être mortels, voilà que le bon Dieu annonce que dans la descendance de la femme, une d'entre elles écrasera la tête du serpent. C'est l'image de cette femme, la bienheureuse Vierge Marie, qui vient mettre à mal le mal. Si au commencement, la femme a été créée à partir de l'homme, voilà que pour notre salut, c'est le schéma inverse qui s'opère. C'est la nouvelle Ève qui met au monde le nouvel Adam, celui qui vient à notre secours. Au jour de l'Annonciation, la bienheureuse Vierge Marie accepte ce plan de Dieu, ce dessein divin, car Dieu aurait pu nous sauver sans la Vierge Marie. Il l'a choisie entre toutes les femmes pour devenir la mère de l'auteur de la vie, pour devenir notre sauveur. Voilà que la bienheureuse Vierge Marie, si elle accomplit la promesse de ce proto-évangile, elle est tout autant la femme des derniers temps. C'est saint Jean qui le voit dans l'Apocalypse. La femme forte, la femme fière qui porte son enfant alors que le dragon rugissant, figurant le mal, lui qui avec sa queue balaie les tiers des étoiles du ciel, est l'image de ce combat de la fin des temps. Et la Vierge est là pour nous présenter le salut qui vient par son Fils. Cette force d'âme de Notre-Dame est bien empreinte dans le Magnificat. Elle reconnaît la pauvreté, l'humilité par laquelle elle a été choisie par Dieu, mais elle l'annonce. Elle annonce la justice du règne à venir. Il renversera les puissants de leur trône, mais il élèvera les humbles. Voilà déjà l'image de la femme des derniers temps. Voilà que la Vierge, parvenue à la gloire du ciel, intercède auprès de son Fils. Hâtez, Notre-Dame, le retour de votre Fils pour que enfin arrive et la paix et la justice ici-bas, un règne d'amour et de miséricorde. Voilà donc le grand mystère de la Vierge Marie. Femme des derniers temps, des derniers combats, qui, comme au jour de la Visitation, quitte son assomption pour venir visiter notre terre. Parce que c'est une mère et que nous sommes ses enfants, elle vient à temps et surtout à contre-temps nous rappeler, comme à Lourdes, terre bénie de notre Bigorre, qu'il faut beaucoup se convertir, qu'il faut prier Dieu pour les pécheurs, qu'il faut faire pénitence et pour cela aller à la source qui n'est autre que son divin Fils. Voilà la mère qui vient nous visiter ici-bas parce qu'elle veut que nous soyons tous réunis là-haut, dans la patrie. Notre-Dame, en ce jour de fête, alors que nous sommes réunis devant vous, nous nous confions à vous pour que vous puissiez agir dans votre conception immaculée, que nous puissions, comme vous, parvenir aux joies du ciel. Nous vous confions chacun des membres de vos familles, de nos familles. Nous vous confions tous ceux qui traversent des épreuves, tous ceux nombreux qui sont en ces temps désespérés. Nous vous confions, ô Notre-Dame, tous les malades, porteurs de handicap et convalescents, qui ont une place singulière en votre cœur si maternel. Nous vous confions, Reine du ciel, tous nos fidèles défunts pour qu'ils parviennent aux sources vives du salut. Et parce que dans le mystère de votre Assomption glorieuse, vous êtes la patronne et la reine de France, nous vous prions pour le relèvement de notre pays, qu'avec vous, le cortège des saints de notre terre, des enfants de notre peuple, intercède pour notre relèvement. Et en ces temps ô combien troublés pour notre monde, nous prions avec vous pour qu'advienne la paix. Nous savons que, parvenus à la gloire du ciel, vous avez grand souci de nous ici-bas. Nous rendons grâce parce que vous êtes au ciel, mais aussi si présente à nos côtés au quotidien. Bénissez-nous, ô Notre-Dame, bénissez notre France, bénissez notre monde en détresse, pour qu'advienne la paix, pour que revienne votre Fils. Ainsi soit-il.